Chapitre 48. Plus jamais faible. 3 ans plus tôt. C'est très réussi, Shalan, déclara Balat en parcourant ses croquis. Ils étaient installés dans les jardins en compagnie de Wikim, assis par terre, qui lançait une balle enveloppée dans un chiffon pour que son H-Dog Sakiza l'attrape.
L'anatomie n'est pas correcte, répondit Shalan en rougissant. Je n'arrive pas à rendre correctement les proportions.
Elle avait besoin que des modèles posent pour elle, afin qu'elle puisse y travailler.
« Tu es plus douée que maman l'a jamais été »,
lui dit Balat en passant à une autre page, où elle l'avait représenté sur le terrain d'entraînement avec le tuteur qui lui enseignait le combat à l'épée. Il l'orienta vers Wikim, qui haussa un sourcil. Son frère semblait aller de mieux en mieux depuis ces 4 derniers mois. Moins maigre, plus robuste, il transportait presque constamment des problèmes de mathématiques avec lui. Papa s'était un jour emporté contre lui pour cette raison, affirmant que c'était quelque chose de féminin et d'inconvenant. Mais au cours d'une rare démonstration de dissension, ses ardents s'étaient approchés pour lui dire de se calmer et affirmer que le Tout-Puissant approuvait l'intérêt de Wikim. Ils espéraient que Wikim trouverait sa place parmi leurs rangs.
« J'ai entendu dire que tu avais reçu une autre lettre d'Eilita, » dit Shalan,
cherchant à distraire Balat du carnet de croquis. Elle ne pouvait s'empêcher de rougir tandis qu'il inspectait une page après l'autre. Ses dessins n'étaient pas destinés à ce que d'autres les voient. Il n'était pas très bon.
« Oui, » répondit-il en souriant.
« Tu vas te la faire lire par Shalan ?»
l'interrogea Wikim en lançant la balle. Balat toussa.
« J'ai demandé à Malise. Shalan était occupé.
« Tu es gêné !»
s'exclama Wikim en le montrant du doigt.
« Que contiennent ces lettres au juste ?»«
Des choses que ma sœur de 14 ans n'a pas besoin de savoir, » rétorqua Balat.
« C'est osé à ce point-là ?»
demanda Wikim.
« Je n'aurais pas imaginé ça de la part de la petite Tavinar.
Elle paraît trop convenable. »«
Non !»
Balat rougit encore davantage.
« Elles ne sont pas osées, simplement privées. »«
Privées comme ton... »
« Wikim !»
l'interrompit Shalan. Il leva les yeux, puis remarqua les sprennes de colère qui s'accumulaient sous les pieds de Balat.
« Nom des foudres, Balat! Tu deviens sacrément susceptible au sujet de cette fille !»«
L'amour nous rend tous idiots !»
déclara Shalan pour détourner leur attention.
« L'amour ?»
demanda Balat en la regardant.
« Shalan, tu es à peine en âge de recouvrir ta sage main. Qu'est-ce que tu connais de l'amour ?»
Elle rougit.
« Je... laisse tomber. »
« Oh, regardez-moi ça !» reprit Wikim. « Elle vient de trouver une répartie intelligente. Tu vas devoir nous la dire, Shalan. »«
Pas la peine de garder ces choses-là pour toi, »
acquiesça Balat.
« Ministara trouve que je dis trop ce que je pense, que ce n'est pas un attribut très féminin. »
Wikim éclata de rire.
« Je connais bien des femmes que ça n'a jamais arrêté. »
« Oui, Shalan, » reprit Balat. « Si tu ne peux pas nous dire ce que tu penses, à qui d'autre pourrais-tu le dire ?»«
Aux arbres. » répondit-elle. « Aux pierres, aux arbustes. Pratiquement à tout ce qui ne m'attirera pas d'ennui auprès de mes tutrices. »«
Dans ce cas, tu n'as pas de souci de Balat, »
déclara Wikim.
« Il ne serait même pas capable de répéter quelque chose d'intelligent. »«
Hé !»
s'exclama Balat. Cela dit, ce n'était malheureusement pas loin de la vérité.
« L'amour, »
dit Shalan, en partie dans le seul but de les distraire, « ressemble à un tas de crottins de chule. »«
Parce qu'il sent mauvais ?» lança Balat.
« Non, » répondit Shalan, « parce que même quand on cherche à l'éviter, on marche dedans. »
Des paroles sacrément profondes pour une jeune fille entrée dans l'adolescence il y a tout juste 15 mois,
commenta Wikim en gloussant de rire.
« L'amour ressemble au soleil, » déclara Balat en soupirant.
« Parce qu'il est aveuglant ?» le questionna Shalan. « Blanc, chaud, puissant, mais aussi capable de te brûler ?»«
Peut-être. » répondit Balat en hochant la tête. L'amour ressemble à un chirurgien herdasien, dit Wikim en la regardant.
Dans quel sens?
L'interrogea Shalan.
À toi de me le dire,
répliqua Wikim.
Je cherche à voir ce que tu peux en tirer.
Les deux te mettent mal à l'aise?
Suggéra Shalan.
Non. Oh, la seule raison pour laquelle on puisse en vouloir, c'est si on a reçu un coup puissant à la tête.
« Ah, l'amour ressemble à de la nourriture gâtée. »«
D'un côté, nécessaire pour vivre, » répondit Shalan, « mais aussi expressément écœurant. »«
Les ronflements de papa. »
Elle frémit.
« Il faut l'avoir vécu pour savoir à quel point c'est perturbant. »
Wickham gloussa de rire. Nom des foudres, que c'était agréable de voir ça.
Arrêtez, vous deux, leur lança Balat. C'est irrespectueux, ce genre de discussion. L'amour ressemble à une mélodie classique.
Shallan sourit. Si ta performance prend fin trop vite, ton public est déçu?
Shallan, s'écria Balat.
Wickham, cependant, se roulait par terre de rire. Au bout d'un moment, Balat secoua la tête et gloussa d'un rire agréable. Shallan, quant à elle, rougissait.
« Je viens vraiment de dire ça. »
Cette dernière saillie avait été plutôt spirituelle, bien meilleure que les autres. Mais elle était aussi indécente. Elle en tirait un plaisir coupable. Balat parut gêné, et il rougit de ce double sens, faisant apparaître des sprennes de honte. Balat, toujours si solide. Il avait tellement envie de les diriger. Pour autant qu'elle le sache, il avait renoncé à tuer des crémillons pour s'amuser. L'amour l'avait rendu plus fort, l'avait transformé. Un bruit de roue sur la pierre annonça l'arrivée d'une voiture devant la maison. Pas de bruit de sabots. Leur père était l'une des rares personnes des environs à posséder des chevaux. Les voitures des autres étaient tirées par des chules ou des parches. Balat se leva pour aller voir qui venait, et Sakiza le suivit, en barrissant d'un air excité. Shallan reprit son carnet. Papa lui avait récemment interdit de dessiner les parches ou les sombres iris du manoir. Il trouvait ça inconvenant. Par conséquent, elle avait du mal à trouver des silhouettes sur lesquelles s'entraîner.
« Shallan !»
Elle sursauta et s'aperçut que Wickham n'avait pas suivi Balat.
« Oui ?»«
Je m'étais trompée !»
déclara Wickham en lui tendant quelque chose.
« Une petite bourse, au sujet de ce que tu fais. Maintenant j'y vois plus clair, et ça fonctionne toujours. Damnation, oui, ça fonctionne. Merci. »
Elle fit mine d'ouvrir la bourse qu'il venait de lui tendre.
« Ne fais pas ça !»
dit-il.
« Qu'est-ce que c'est ?»«
De la vénèbre, » répondit Wickham. « Une plante. Enfin, ses feuilles. Si tu les manges, elles te paralysent. Et tu arrêtes de respirer. »
Perturbée, elle resserra très fort le haut de la bourse. Elle ne voulait même pas savoir comment Wickham était capable de reconnaître une plante mortelle comme celle-là.
« Je les porte sur moi depuis pas loin d'un an, »
expliqua-t-il tout bas. « Plus longtemps tu les gardes, plus les feuilles sont censées devenir puissantes. »
Mais je n'ai plus l'impression d'en avoir besoin. Tu peux les brûler. Ou en faire ce que tu voudras. Simplement, j'ai pensé qu'il fallait que ce soit toi qui les aies.
Elle sourit, quoique perturbée. Wickham avait porté du poison sur lui. Il estimait qu'il valait mieux qu'il lui donne. Il se mit à courir pour rejoindre Balat, et Shallan rangea la bourse dans sa sacoche. Elle trouverait un moyen de la détruire plus tard. Elle reprit ses crayons et recommença à dessiner. Peu après, des cris provenant du manoir l'arrachèrent à sa concentration. Elle leva les yeux, ne sachant pas trop combien de temps s'était écoulé. Elle se remit debout, serrant sa sacoche contre sa poitrine, et traversa la cour. Les lianes tremblaient et se rétractaient devant elle, même si, à mesure qu'elle pressait le pas, elle marchait de plus en plus souvent dessus et les sentait qui se tortillaient sous ses pieds et cherchaient à se retirer. Les lianes cultivées avaient de piètres réflexes. Lorsqu'elle atteignit la maison, elle entendit de nouveaux cris.
« Papa !»
La voix d'Acha Jouchou.
« Papa, je t'en supplie !»
Shallan ouvrit les portes lambrisées, à toute volée, et sa robe de soie émit un bruissement contre le sol lorsqu'elle entra pour découvrir trois hommes vêtus d'habits à l'ancienne. Oulatou, pareil à une jupe qui leur tombait aux genoux, ample chemise colorée, manteau fragile qui retombait jusqu'au sol, qui se tenait debout devant papa. Jouchou était agenouillé à terre, les mains liées dans le dos. Au fil des ans, il s'était empâté à cause de ses excès répétés.
« Bah !» s'exclama papa. « Je ne tolérerai pas ce vol !»«
Son crédit est le vôtre, clarissime !» déclara l'un des hommes d'une voix calme et mielleuse. Il était sombre iris, bien que sa voix n'en donne pas l'impression. « Il nous a promis que vous paieriez ses dettes. »«
Il a menti !»
répondit papa, tandis qu'Ekel et Jix, les gardes de la maison, se tenaient à ses côtés, mains sur leurs armes.
« Papa !»
chuchota Jouchou à travers ses larmes.
« Ils vont m'emmener !»«
Tu étais censé te rendre dans nos propriétés extérieures !»
hurla papa.
« Tu étais censé aller inspecter nos terres, pas dîner avec des voleurs et perdre notre fortune et notre honneur au jeu !»
Jouchou baissa la tête et s'affaissa à l'intérieur de ses liens.
« Il est à vous !»
annonça papa, qui se retourna pour quitter la pièce d'un pas furieux. Shallan eut le souffle coupé quand l'un des hommes soupira, puis fit un geste en direction de Jushu. Les deux autres s'emparèrent de lui. Ils ne semblaient pas ravis de repartir sans paiement. Jushu tremblait lorsqu'ils l'entraînèrent à leur suite, croisant Balat et Wikim, qui observaient la scène non loin de là. Dehors, Jushu criait grâce et suppliait les hommes de le laisser de nouveau parler à son père.
« Balat !» dit Shallan en s'approchant pour lui prendre les bras. « Fais quelque chose !»
Nous savions tous où son goût du jeu le mènerait, répondit Balat. Nous lui avions dit, Shallan. Il a refusé d'écouter.
Mais c'est quand même notre frère!
Que veux-tu que je fasse? Où pourrais-je trouver assez de sphères pour rembourser sa dette? Les pleurs de Jushu décrurent, tandis que les hommes quittaient le manoir. Shallan se retourna et courut rejoindre son père, dépassant Jix qui se grattait la tête. Papa était allé dans son bureau, deux pièces plus loin. Elle hésita sur le pas de la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur pour le voir affalé dans son fauteuil près de la cheminée. Elle entra, longeant le bureau où ses ardents, et parfois sa femme, tenaient ses comptes et lui lisaient des rapports. Personne ne s'y trouvait actuellement. Mais les livres de comptes étaient ouverts, dévoilant une affreuse vérité. Elle leva la main vers sa bouche en remarquant plusieurs courriers relatifs à des dettes. Elle avait donné un coup de main pour des calculs partiels, mais elle n'avait jamais vu une partie si grande du tableau général. Et elle était abasourdie par ce qu'elle découvrait. Comment la famille pouvait-elle devoir autant d'argent ?
« Je ne changerai pas d'avis, Shallan, » lui dit papa. « Va-t'en. Jushu a préparé lui-même ce bûcher. »«
Mais... »«
Laisse-moi !» rugit papa en se levant.
Shallan eut un mouvement de recul, yeux écarquillés, et son cœur faillit s'arrêter. Des sprènes de peur apparurent en se tortillant autour d'elle. Il ne criait jamais sur elle. Jamais. Papa prit une profonde inspiration, puis se retourna vers la fenêtre de la pièce. Il poursuivit en lui tournant le dos.
« Je n'ai pas les moyens de verser ces sphères !»«
Pourquoi ?» l'interrogea Shallan. « Papa, c'est à cause de l'accord avec le clarissime Révillard ?»
Elle regarda les livres de comptes.
« Non, c'est plus vaste que ça. »«
Je vais enfin faire quelque chose de moi-même !»
déclara papa.
« Et de cette maison. Je vais les empêcher de murmurer derrière notre dos. Je vais mettre fin à ces constantes remises en doute. La maison d'Avar va devenir une puissance dans cette principauté. »
« En soudoyant des alliés supposés pour qu'ils nous rendent des services ?»
demanda Shallan.
« En utilisant de l'argent que nous n'avons pas ?»
Il se retourna vers elle, le visage plongé dans l'ombre, mais les yeux reflétant la lumière, comme des braises jumelles dans l'obscurité de son crâne. Lors de cet instant, Shallan éprouva une haine terrifiante pour son père. Il s'avança d'un pas vif et la saisit par les bras. La sacoche de Shallan tomba par terre.
« J'ai fait ça pour toi !»
gronda-t-il en serrant ses bras dans une prise douloureuse.
« Et tu vas m'obéir !» J'ai commis une erreur, quelque part, en te laissant apprendre à remettre mes ordres en question. »
Elle gémit de douleur.
« Il va y avoir des changements dans cette maison, » poursuivit papa. « Plus jamais faible, j'ai trouvé un moyen. »«
S'il te plaît, arrête !»
Il baissa les yeux vers elle et sembla remarquer pour la première fois qu'elle avait les larmes aux yeux.
« Papa !»
chuchota-t-elle. Il leva les yeux vers le haut, vers sa chambre. Elle savait qu'il regardait en direction de l'âme de maman. Il la relâcha alors, ce qui la fit culbuter à terre, ses cheveux roux couvrant son visage.
« Tu es consigné dans ta chambre !»
aboya-t-il.
« File ! Et n'en sors plus sans ma permission !»
Shallan se releva précipitamment, reprit sa sacoche, puis quitta la pièce. Dans le couloir, elle appuya le dos contre le mur, haletant péniblement, des larmes ruisselant sur son menton. Les choses avaient commencé à s'améliorer. Papa avait commencé à changer. Elle ferma très fort les yeux. Les émotions faisaient rage et tourbillonnaient en elle. Elle ne pouvait pas les contrôler. Jushu. Papa donnait vraiment l'impression de vouloir me faire mal, songea-t-elle en frissonnant. Il a tellement changé. Elle se laissa tomber sur le sol et s'entoura de ses deux bras.
Jushu. Continuez à tailler ses ronces. L'inflexible. Frayez-vous un chemin vers la lumière.
Shallan s'obligea à se remettre debout. Elle regagna la salle de banquet en courant, toujours en larmes. Balat et Wikim s'étaient assis, et Minara leur servait à boire en silence. Les gardes étaient partis, peut-être pour rejoindre leur poste à l'extérieur du manoir. Quand Balat vit Shallan, il se leva, yeux écarquillés. Il se précipita vers elle et, dans sa hâte, renversa sa coupe qui répandit du vin par terre.
« Est-ce qu'il t'a fait mal ?»
demanda Balat.
« Damnation, je vais le tuer. Je vais aller trouver le haut prince et... »«
Il ne m'a pas fait mal, » l'interrompit Shallan.
« S'il te plaît, Balat, ton couteau, celui que papa t'a donné. »
Il baissa les yeux vers sa ceinture.
« Oui ?»« Il vaut une belle somme. Je vais essayer de l'échanger contre Jouchou. »
Balat tendit une main protectrice vers le couteau. « Jouchou a construit lui-même ce bûcher, Shallan. »
« C'est exactement ce que papa m'a dit, »
répliqua Shallan en s'essuyant les yeux, avant de croiser et de soutenir le regard de son frère.
« Je... »
Balat regarda par-dessus son épaule, dans la direction qu'avait emprunté Jouchou. Il soupira, puis détacha le fourreau de sa ceinture et le lui tendit. « Ça ne suffira pas. Ils ont dit qu'il devait plus de 100 bromes d'émeraude.
« J'ai aussi mon collier, »
ajouta Shallan. Wikim, qui buvait son vin en silence, tendit la main vers sa ceinture et en tira son couteau. Il le posa au bord de la table. Shallan le ramassa sur son passage, puis sortit de la pièce en courant.
Pouvait-elle rattraper les hommes à temps ?
À l'extérieur, elle aperçut la voiture un peu plus loin sur la route. Elle se précipita aussi vite qu'elle le put, foulant l'allée pavée, et franchit les portes pour rejoindre la route. Elle n'était pas très rapide, mais les chules non plus. Tandis qu'elle approchait, elle vit que Jouchou avait été attaché de manière à marcher derrière la voiture. Il ne leva pas les yeux quand sa sœur le dépassa. La voiture s'arrêta, et Jouchou se laissa tomber à terre et se recroquevilla. Le sombre Iris, à l'air hautain, ouvrit sa portière pour regarder Shallan.
« Il a envoyé la fillette. »«
Je suis venue de moi-même, » répondit-elle en lui tendant les poignards. « S'il vous plaît, ils sont d'excellente qualité. »
L'homme haussa un sourcil, puis fit signe à l'un de ses compagnons de descendre pour aller les prendre. Shallan retira son collier et le laissa tomber dans les mains de l'homme en compagnie des poignards. Il prit l'un des deux et l'inspecta, tandis que Shallan patientait, inquiète, en se balançant d'un pied sur l'autre.
« Vous avez pleuré, » déclara l'homme, resté dans la voiture. « Vous tenez tant que ça à lui. »«
C'est mon frère. »«
Et alors ?» s'exclama l'homme. « J'ai tué mon frère quand il a tenté de m'escroquer. Vous ne devriez pas laisser vos relations brouiller votre regard. »
« Je l'aime, »
murmura Shallan. L'homme qui inspectait les poignards les replaça dans leur fourreau.
« Ce sont des œuvres de maître, » reconnut-il. « Je les estimerai à 20 bromes d'émeraude. »
« Et le collier ?»
demanda Shallan.
« Simple, mais fait d'aluminium, qu'on ne peut obtenir que par spiricantation, »
dit l'homme à son patron.
« 10 d'émeraude. L'ensemble vaut la moitié de ce que nous doit votre frère. »
Le découragement gagna Shallan.
« Mais... » « Que comptez-vous faire de lui ? Le vendre comme esclave ne rembourserait pas une dette si grande. »
« Je suis souvent d'humeur à me rappeler que les pâles iris saignent de la même façon que les sombres iris, »
déclara l'homme.
« Et parfois, il est utile d'avoir un moyen de dissuader les autres de contracter des dettes dont ils ne puissent s'acquitter. Si je l'affiche avec prudence, il me fera peut-être gagner plus d'argent qu'il ne m'en coûtera. »
Shallan se sentit minuscule. Elle joignit les mains, l'une couverte, l'autre non. Avait-elle perdu dans ce cas ? Les femmes des livres de papa, celles qu'elle en était venue à admirer, n'auraient pas supplié pour toucher le cœur de cet homme ? Elles auraient recouru à la logique.
Shallan n'était pas très douée sur ce point. Elle n'avait pas la formation adéquate, et elle n'avait absolument pas le tempérament nécessaire à l'heure actuelle.
Mais quand les larmes lui revinrent aux yeux, elle s'obligea à prononcer les premiers mots qui lui traversèrent l'esprit.
« Il vous permettra peut-être de gagner de l'argent de cette manière, »
déclara-t-elle.
« Mais peut-être pas. C'est un pari, et vous ne me faites pas l'effet du genre d'homme à aimer les paris. »
Il éclata de rire.
« Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce sont les paris qui m'ont amené ici. »
« Non, »
répondit-elle, rougissant de ses larmes.
« Vous êtes le genre d'homme qui profite des paris dans lesquels se lancent les autres. Vous savez qu'ils les conduisent généralement à leur perte. Je vous offre des objets qui ont une valeur réelle. Prenez-les. « S'il vous plaît !»
L'homme réfléchit. Il tendit la main pour demander qu'on lui tende les poignards. Il en tira un de son fourreau et l'inspecta.
« Citez-moi une raison pour laquelle je devrais lui témoigner de la pitié. Dans ma maison, c'était un glouton arrogant qui agissait sans jamais réfléchir aux difficultés qu'il allait vous causer, à vous, sa famille.
« Notre mère a été assassinée, » répondit Shallan. « Cette nuit-là,
J'ai pleuré, et Jushu m'a serré dans ses bras. »
C'était tout ce dont elle disposait. L'homme réfléchit de nouveau. Shallan sentit son cœur cogner à tout rompre. Enfin, il lui lança son collier. « Gardez ça !» Il adressa un signe de tête à son homme. « Libérez ce petit crémillon. Fillette, si vous avez un tant soit peu de bon sens, vous apprendrez à votre frère à se montrer un peu plus conservateur. » Il referma la porte. Shallan recula, tandis que le serviteur libérait Jushu. Puis l'homme monta à l'arrière du véhicule et frappa un coup. La voiture se remit en marche. Shallan s'agenouilla près de Jushu. Il cligna d'un œil. L'autre, poché et enflé, commençait à se fermer, tandis qu'elle détachait ses mains ensanglantées. Il ne s'était pas écoulé un quart d'heure depuis que papa avait dit à ses hommes de l'emmener, mais ils avaient manifestement mis ce temps à profit pour montrer à Jushu ce qu'ils pensaient des gens qui ne les payaient pas.
« Shallan ?»
demanda-t-il, les lèvres en sang.
« Que s'est-il passé ?»«
Tu n'écoutais pas ?»«
Mes oreilles résonnent, »
répondit-il.
« Et tout tourne autour de moi. Est-ce que je suis libre ?» Balat et Wiki m'ont donné leur poignard pour te libérer.
Mile a accepté de me céder pour si peu.
Visiblement, il ne connaissait pas ta vraie valeur.
Jushu eut un sourire qui dévoila ses dents.
Toujours aussi doué avec les mots, hein?
Il se releva avec l'aide de Shallan et entreprit de regagner la maison en boitant. Balat les rejoignit à mi-chemin et prit Jushu sous le bras.
Merci,
chuchota Jushu.
Elle dit que vous m'avez sauvé.
Merci, grand frère.
Il se mit à pleurer. Balat regarda Shallan, puis de nouveau Jushu.
Tu es mon frère. Viens, rentrons te nettoyer.
Voyant qu'il s'occupait de Jushu, Shallan les quitta et pénétra dans le manoir. Elle monta l'escalier, passa devant la petite pièce éclairée de papa et entra dans sa chambre. Elle s'assit sur le lit. Là, elle attendit la tempête majeure. Enfin, on poussa la porte de sa chambre. Elle ouvrit les yeux. Papa se tenait à l'extérieur. Shallan distinguait une silhouette effondrée à terre derrière lui, étendue sur le sol du couloir. Minara, la servante. Son corps reposait à terre dans une position étrange, et l'un de ses bras était replié selon un angle anormal. Elle remua en geignant, laissant du sang sur le mur lorsqu'elle tenta de s'éloigner en rampant. Papa entra dans la chambre de Shallan et ferma la porte derrière lui.
« Tu sais que je ne te ferai jamais de mal, Shallan, »
dit-il tout bas. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux.
« J'ai trouvé un moyen de me contrôler, »
ajouta-t-il.
« Il faut simplement que je laisse sortir la colère. Je ne peux pas me reprocher d'avoir cette colère en moi. Ce sont les autres qui la suscitent lorsqu'ils me désobéissent. »
L'objection qu'elle s'apprêtait à formuler, selon laquelle il ne lui avait pas dit d'aller immédiatement dans sa chambre, simplement de ne pas en ressortir une fois qu'elle y serait, mourut sur ses lèvres. Une excuse idiote. Ils savaient tous deux qu'elle avait désobéi volontairement.
« Je ne voudrais pas avoir à punir qui que ce soit d'autre par ta faute, Shallan, »
reprit papa.
Ce monstre glacial était-il réellement son père ?
« L'heure est venue, » dit-il en hochant la tête. « Plus de complaisance. Si nous voulons être importants à Jakeved, nous ne pouvons pas être perçus comme des faibles. Tu comprends ?»
Elle hocha la tête, incapable de retenir ses larmes.
« Parfait, »
dit-il en posant la main sur sa tête avant de passer les doigts dans ses cheveux.
« Merci. »
Il la quitta et ferma la porte.